Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Merci d'écouter RTL. Très bonne journée à vous tous qui êtes avec nous ce matin. Dans quelques minutes, nous aurons rendez-vous avec Laurent Gérard et toute son équipe. Mais tout de suite, nous allons lire la presse grâce à Isabelle Choquet. Et dans vos journaux ce matin, Isabelle, la roue tourne.
Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Hollywood. Les rois deviennent des gueux et ceux qui les courtisaient leur crachent au visage. Ainsi, Woody Allen, dont le dernier film sort aujourd'hui. Ça s'appelle Wonder Wheel, la grande roue. Presque tous vos journaux en parlent, et pas seulement pour en faire la critique, mais parce que c'est peut-être vraiment son dernier film. Le réalisateur est accusé d'abus sexuels. Depuis 25 ans, sa fille adoptive, Dylan Farrow, affirme qu'il l'a agressée lorsqu'elle était enfant. Et elle l'a répété ces derniers jours. Depuis, c'est la curée. Et il y a une anecdote qui en dit long, c'est Libé qui la raconte. Sur les DVD de Wonder Wheel qui ont été envoyés aux Oscars, il y a bien sûr le nom de tous les acteurs, les techniciens, même la maquilleuse, mais pas celui du réalisateur. Gommé Woody Allen, comme on a gommé Kevin Spacey du dernier Ridley Scott. Alors le Parisien s'interroge, doit-on boycotter le cinéma de Woody Allen? Éternel débat sur l'artiste et son œuvre. Aux États-Unis, c'est la guerre des tranchées. Plusieurs acteurs, dont Nathalie Portman, ont déclaré qu'ils croyaient Dylan. D'autres, comme Colin Firth, ont fait savoir qu'ils regrettaient d'avoir tourné avec Woody Allen. Et les acteurs de son dernier tournage, Un jour de pluie à New York, ont annoncé qu'ils reverseraient leur salaire aux victimes de harcèlement sexuel. Il y a peu de temps encore, ils étaient tous prêts à baisser leur salaire pour travailler avec le maestro. Quelques voix s'élèvent malgré tout pour le soutenir, notamment son ancienne muse, Diane Keaton ou Alec Baldwin. Il y a 25 ans, deux enquêtes ont été classées sans suite, faute de preuves. Rien de plus depuis, mais la donne a changer.
Et nous y reviendrons à 9h dans Laissez-vous tenter. Alors, nouvelle donne aussi en Allemagne. Aujourd'hui, c'est jour de grève.
Grève chez Siemens, Daimler ou Porsche. 250 entreprises en tout. Grève des métallos à l'appel du puissant syndicat IG Metall. Et ce qu'ils réclament, c'est tout simplement la semaine de 4 jours. Ou au moins la possibilité de réduire son temps de travail à 28 heures pendant 2 ans et avec la garantie de revenir à 35 heures ensuite. Travailler moins et gagner moins, sauf pour les travailleurs postés et pour ceux qui ont un enfant à charge ou un proche dépendant. Le patronat est vent debout, mais les salariés ont la main. L'Allemagne est en bonne santé économique, les carnets de commandes sont pleins, le taux de chômage a de quoi faire rêver de ce côté du Rhin, 5,7%, et les entreprises manquent de main-d'œuvre qualifiée. Ça change tout. Il y a 25 ans, Volkswagen passait à la semaine de 4 jours pour partager le boulot qui manquait. Aujourd'hui, il y a du boulot, mais on se dit qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Les jeunes générations ne veulent plus perdre leur vie à la gagner. IG Metall l'a bien compris et surfe sur la vague. Les 35 heures arrachées dans les années 80 ne suffisent plus, ou plutôt, c'est devenu trop. En tout cas, à certains moments de la vie. Le discours du syndicat est limpide, la flexibilité, ça marche dans les deux sens. On a fait des efforts pendant la crise de 2008, et bien maintenant, c'est à vous de jouer, donnant, donnant. Et le syndicat va jusqu'au bout de sa logique. Au terme de cette grève, un accord pourrait déboucher sur une possibilité d'augmentation du temps de travail. Ça n'a pas l'air d'être un problème. De quoi bousculer les certitudes françaises. C'est un dossier complet à lire dans Libération.
On en vient maintenant au scandale du jour. 3 services de renseignement n'auraient pas suffi à empêcher le meurtre du père Hamel.
C'est le cadavre enchaîné qui met les pieds dans la mare. Avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris avait repéré Adèle Kermiche sur la messagerie cryptée Telegram. Mais la direction du renseignement militaire était aussi sur le coup. Elle a même produit 3 notes, le 22, le 25 et le 26 juillet, autrement dit le jour même de l'assassinat du prêtre. Cette prose estampillée secret défense a été envoyée à une cellule discrète baptisée Alat, du nom d'une déesse syrienne. Malheureusement, explique le canard, la première note est rédigée un vendredi, veille de week-end, on est au cœur de l'été, donc elle n'est pas lue immédiatement. La deuxième non plus, notez bien, et pourtant c'est un lundi. Et lorsqu'un responsable découvre enfin sur sa messagerie la troisième note, eh bien, il est trop tard, Kermiche est sur le point de passer à l'acte. Mais ce n'est pas tout. Selon le canard, un troisième signal d'alarme avait été lancé. Dès le 21 juillet, le service central du renseignement territorial a lui aussi pondu une note transmise à tous les services de police et à la fameuse cellule Alat. Elle prévient qu'un individu appelle à commettre des attentats en France, notamment dans les lieux de culte, mais personne n'active la procédure d'urgence. Les informations se perdent dans les méandres du renseignement français. En effet, il existe 4 cellules de coordination sur le terrorisme, mais aucune pour les coordonner entre elles.
Alors, des infos pas prises au sérieux, et puis des mensonges qui sont crus.
Les mensonges d'Alexandre Brandy, un imposteur ultra doué qui s'est fait passer pour le neveu du colonel Kadhafi pour mener une vie de pacha. Ça a commencé en 2006, il avait 20 ans à l'époque. Il ne parle pas un mot d'arabe. Je me suis acheté un costume et une cravate, dit-il. Je suis entré dans une première agence immobilière de prestige. J'ai posé un journal arabe et mes gants sur le bureau, comme si j'étais partout chez moi. Et j'ai dit que je cherchais un bien de valeur. Quand on m'a demandé mon nom, j'ai dit Kadhafi. Le tour était joué. Mais ne lui a-t-on pas réclamé une preuve ? Pas une seule fois. On ne demande pas ses papiers au neveu du colonel Kadhafi. C'est le début de la grande vie. Déjeuner dans des brasseries prestigieuses, visite d'hôtels particuliers à 100 millions d'euros, des soirées chics, tout un petit monde de parasites qui lui proposent d'acheter un yacht, des voitures de sport, des tableaux. J'étais comme un pipeline en plein Paris, écrit-il. À chaque fois, évidemment, il trouve un prétexte pour ne pas conclure. Tout bascule quelques années plus tard. Il devient braqueur. Et puis finalement, il se fait arrêter. Ce récit étonnant est à lire dans l'Express et je vous le conseille. Ce récit brandi en a tiré un roman qui vient de sortir. Ça s'appelle « Il y a longtemps que je mens » et je vous jure que c'est vrai.
C'était la revue de presse d'Isabelle Choquet. Je vous jure aussi que c'était vrai.